Alors des problèmes, bon, il y en a eu bien sûr. En fait, c'est ce qu'on aime bien. On s'ennuie assez vite quand les choses deviennent routines. Donc, avec Rosetta, on a été gâtés, on a eu pas mal de soucis et de choses à gérer. Par exemple, pendant les 10 ans de vol avant d'arriver à la comète, on a eu une fuite sur une des canalisations qui aurait permis de repressuriser les réserves de carburant, donc pour mettre les tuyères à bonne pression. Alors, on a pu savoir plus ou moins dans quelle tuyauterie la fuite était, mais on n'avait aucune idée de sa taille. Et si on allait rallumer les vannes d'hélium pour repressuriser les réserves de carburant, ce qui allait se passer, parce qu'on a eu à créer une force qui allait endommager la sonde, pardon. Et donc, en fait, on a pris la décision de ne pas repressuriser les réservoirs. Alors, ça a eu pour conséquence qu'on a utilisé les tuyères à un régime non qualifié au sol, donc à un régime avec une pression beaucoup plus basse. Et il a fallu s'adapter à ces conditions. Par exemple, en créant du contrôle thermique sur les réservoirs de carburant pour réguler et contrôler la pression dans ces réservoirs, voilà, pour essayer de pallier à ce déficit. Donc ça aurait pu être la fin de la mission Rosetta. D'autres soucis qu'on a eu, c'est avec les roues à réaction. Donc, les roues sont un peu comme des gyroscopes, si vous voulez, des roues qui tournent très très vite et qui permettent de stabiliser la sonde, mais de gérer aussi tous les pointages. Et après le premier survol du premier astéroïde, on a vu un signal en télémétrie avec une friction qui était anormalement élevée. On a contacté l'industriel qui nous a expliqué que d'ici 6 mois, il pensait que la roue serait morte. Alors, bon, on a éteint cette roue, on peut travailler sur 3 roues, et donc 2 ans plus tard, avec le survol du deuxième astéroïde, on a eu le même problème avec une deuxième roue. Et donc, la sonde n'aurait pas pu opérer avec 2 roues seulement. Alors, on a essayé de réparer les roues, donc chaque roue a été conçue avec un petit réservoir d'huile qu'on peut activer pour relubrifier les roues. Donc, on l'a fait 2 fois par roue, mais ça n'a pas marché. Et donc, voilà, on a dû faire 2 choses. La première chose, c'est pendant la période d'hibernation, pendant ces 2 ans et demi, on a conçu un nouveau logiciel au cas où on aurait deux roues mortes en sortant d'hibernation. Donc, ce nouveau mode aurait fait un mix de 2 roues et des tuyères. Alors, ça aurait été un mode très dégradé pour faire des opérations à la comète, mais on avait un moyen de faire quelque chose. Voilà. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est que on avait des contraintes dans le manuel d'utilisateur de ces roues qui nous disaient qu'on ne peut pas les opérer à basse vitesse, on est obligé de les opérer uniquement à haute vitesse. Et avec le
La
problème,
vitesse, c'est combien à peu près?
c'est elle monte à
Et
3
un
minutes en
ordre
minute.
Ah ouais, quand même. Ouais.
Et 4 minutes en minute. Mais donc, nous, on s'était rendu compte qu'avec ces problèmes de friction, on ne pouvait les opérer que à basse vitesse. Et donc on avait ici le modèle jumeau de Rosetta avec une vraie roue. Et cette roue, on l'a connectée au modèle, on l'a fait tourner pendant 1 an à basse vitesse. On l'a renvoyée plusieurs fois en industrie, donc la roue a été ouverte, on a vérifié à l'intérieur que tous les mécanismes étaient encore en état de fonctionner. Et on en a pu conclure après 1 an que ben, on pouvait opérer les roues à basse vitesse. Alors une fois que la sonde s'est réveillée en 2014, on a reprogrammé tous ces paramètres pour n'utiliser les roues que à basse vitesse. Après, on a eu un troisième exemple, on a eu énormément de problèmes avec les capteurs d'étoiles. Donc les capteurs d'étoiles sont des instruments, si vous voulez, qui regardent le ciel, qui regardent les étoiles, et avec des plans d'étoiles qui sont chargés à bord, arrivent à indiquer à Rosetta quel est son positionnement dans l'espace. Donc ce sont des outils fondamentaux pour que Rosetta sache où elle est.
Le repérage. Combien de capteurs d'étoiles sur une sonde comme ça?
Deux, normalement
Deux?
toujours deux.
Très
Voilà.
bien.
Et alors ce qui s'est passé, c'est que quand on était très proche de la comète, et que la comète était très active, quand elle était très proche du Soleil, il y avait énormément de dégazage, énormément de poussière, et en fait, donc la Rosetta devait trouver 7 huit étoiles parmi des dizaines de milliers de poussières. Et donc les capteurs d'étoiles sont arrivés à un moment où on ne pouvait plus fonctionner et se sont mis à suivre des poussières au lieu de rester positionnés par rapport aux étoiles. Donc ça, ça a créé ce qu'on appelle des modes panne. Donc la sonde est partie en ce qu'on appelle un safe mode. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et en fait, on a dû complètement changer la façon dont on opérait la sonde. Pour donner un exemple, on avait un plan de trajectoire qui était défini 4 à 8 mois à l'avance. Et on s'est rendu compte qu'on était autour d'un corps actif qui est en évolution continue. On ne peut pas planifier tellement à l'avance. Et donc on est passé d'une trajectoire définie 4 à 8 mois à l'avance à vérifier et optimiser la trajectoire 2 fois par semaine. Donc ça, ça a eu des impacts non seulement sur nous ici, sur site, parce qu'on a dû complètement révolutionner la façon dont on travaillait, mais bien sûr avec tous nos partenaires, donc l'équipe en Espagne et les 13 instruments. Voilà. Mais bon, on a pu s'adapter et après, en fait, donc on travaillait dans un mode où on vérifiait comment les capteurs d'étoiles se comportaient, et c'est ce qui nous permettait 2 fois par semaine de savoir si est-ce qu'on peut se rapprocher de la comète. Où est-ce qu'on doit s'éloigner? Et là, on rentre un peu dans un dilemme, parce que bien sûr, les instruments, les équipes d'instruments veulent qu'on s'approche le plus vite possible, le plus près possible. Et nous, on est responsable de la sécurité de la sonde, et donc indirectement de la sécurité des instruments. Et nous, on est obligé de se maintenir à une certaine distance, justement pour préserver le tout. Parce que si on s'avance trop, ça peut être la fin de la mission.
C'est pour la comète, la vitesse de libération, elle est de combien? Parce que si elle se fait absorber complètement par l'attraction, la sonde se... Non, il n'y a pas de problématique comme celle-ci.
Alors, il y avait... ça a été pris en compte.
Ouais, mais c'est faible ou...
C'est très faible. La gravité de la comète est très faible. Et aussi, ça dépendait de l'activité de la comète.
Ouais, donc, okay.
L'avantage autour de cette comète, c'est que le champ de gravité était très faible. Mais en fait, on pouvait faire ce que l'on voulait. On pouvait, tous les 3 à 4 jours, on faisait une manœuvre. On a été autour de la comète en orbite comme un satellite est en orbite autour de la Terre, mais on a aussi fait des survols hyperboliques en faisant des marches arrière.
L'activité de la comète est prévisible ou...
Elle est plus ou moins prévisible.
Sur combien de temps, sur des heures ou sur des jours?
Sur des mois. C'est plus sur des ordres de grandeur. Savoir comment elle évolue au jour le jour, c'est pratiquement impossible. Bien sûr, on sait qu'en s'approchant du Soleil, son activité va augmenter. Et quand elle va s'éloigner, bien sûr, son activité va réduire. Et après, alors bien sûr, l'équipe ici de Flame Dynamics avait besoin de tous ces modèles de dégazage, justement pour pouvoir prédire ce que l'on allait commander dans les jours à venir. Parce que, bien sûr, la sonde est commandée sur une trajectoire, sur un pointage spécifique, mais nos modèles ne sont pas forcément très précis. Et donc, le dégazage a un impact sur le pointage. Alors, quand on fait de la planification, on en a déjà parlé, on fait de la planification 2 fois par semaine, et on va charger les commandes à bord 2 fois par semaine. Donc ces commandes-là, elles doivent prendre en compte les déviations par rapport à ce qu'on avait envisagé et prédire comment le dépointage va se comporter. Donc ça, c'est fait avec des modèles qui sont développés au sol. Mais bien sûr, ces modèles ont leur imprécision. Et si on a été à une distance spécifique de la comète, par exemple, on va dire 100 km, on sait comment elle se comporte à 100 km. Mais dès qu'on est à 10 km, il y a des forces qui vont venir s'ajouter, qu'on n'a pas pu mesurer avant. Par exemple, le potentiel de gravité va être beaucoup plus dispersé ou différent en fonction d'où on est sur la comète. Et ça, on peut le mesurer que quand on est proche, parce qu'à 100 km, on n'a pas la visibilité de ces forces. Et donc, plus on change la distance, plus il faut qu'on adapte nos modèles, et plus on doit prendre moins de risques. Quand on est loin, il y a peu de risques de rentrer en collision. Quand on est proche, il y a plus de risques. Aussi, on utilisait une méthode pour naviguer autour de la comète qui s'appelle, on faisait de la navigation optique. Donc l'équipe de Flight Dynamics avait des points de repère sur la comète, une crevasse ou une montagne ou un caillou, etc. Et prenait des images tous les jours, jusqu'à 24 images par jour. Alors bien sûr, du côté illuminé de la comète, parce que si on est de côté, on prend des images, donc c'est du noir, on ne voit rien. Et en sachant le temps d'acquisition de l'image et les points de repère, arrivait à reconstruire la position de Rosetta par rapport à la comète. Et c'était ça, pour nous, le plus important. Il fallait que sur chaque image, on puisse voir la comète et qu'on ait des points de repère. Sinon, on aurait été perdu dans l'espace, et il aurait fallu s'éloigner pour réacquérir la comète et pouvoir renaviguer. Voilà. Des choses qui n'avaient jamais été faites avant, des problèmes, des gros problèmes à résoudre, mais bon, là, ça nous a occupé assez longtemps.
Une super belle aventure, en tout cas.
Ah ouais, c'était extraordinaire.
Très bien. Alors, l'époque que la communauté scientifique vit dans le monde du spatial, vous semble-t-elle être l'aube de nouveaux grands projets et de grandes découvertes? Ou du moins, l'expérience que vous avez pu vivre, vous et votre équipe, vous invite-t-elle ou vous donne-t-elle des indications non négligeables sur différents projets éventuels sur un avenir proche, voire lointain?
Oui, c'est clair que le spatial aujourd'hui est en plein développement. On voit aussi énormément dans le secteur privé. Il y a de plus en plus d'investissements. Le spatial est devenu, pour nous, dans nos vies de tous les jours, essentiel. Chaque personne, je crois, utilise une trentaine de satellites par jour, sans vraiment le savoir, que ce soit entre les prévisions météo, la navigation, etc. Donc il y a énormément de développement. On parle beaucoup de retourner sur la Lune aujourd'hui, d'aller vers Mars. Donc il y a clairement une demande, un besoin, un futur de nombreux partenaires. Il y a une chose qui va falloir s'occuper assez rapidement, c'est tous les débris spatiaux qui sont en orbite autour de la Terre, parce que si ça continue à ce rythme et que rien n'est fait, on sera privé de notre accès à l'espace. Et qui pourrait potentiellement créer de gros problèmes. Donc ça, c'est vraiment pour moi une chose qu'il faut régler assez rapidement. Même, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours pour essayer d'aller récupérer les gros débris, les déplacer, etc.
Et vous en avez plus particulièrement conscience de ces débris spatiaux, du fait que dans le domaine planétaire, vous envoyez pas mal de sondes, donc vous devez en prendre compte, quoi.
Oui, mais bon, une fois qu'on a quitté l'orbite terrestre, c'est vide. La probabilité de rentrer en contact avec un gros objet est très très faible. Bien sûr, les sondes sont quand même protégées pour des protections anti-micro-météorites qui peuvent aussi faire des dégâts. Mais là, le risque, c'est vraiment autour de...
Pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences en général et le spatial en particulier ?
D'y aller à fond. Rosetta, ça a mis 30 ans pour être développé. J'ai commencé très jeune sur ce projet. On peut voir la fin. Les prochains grands projets, ils appartiennent aux jeunes. C'est eux, c'est vous qui verrez, j'espère, la conquête sur Mars et sur la Lune. Donc l'avenir vous appartient. Et allez-y à fond. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. J'en ai encore un nouveau dans ma nouvelle équipe. Et ce qui est très important pour moi, c'est la fiabilité. Et je ne peux que vous conseiller que quand vous postulez pour des jobs, investissez-vous à fond et faites des bonnes candidatures. C'est tellement important. Moi, mon dernier poste, il y avait 120 demandes pour venir travailler dans l'équipe sur leur orbiteur. Et donc, il faut faire une sélection. Et malheureusement, les CV qui ne sont pas... qui ne sont pas forcément idéaux, ou les présentations qui ne sont pas géniales, elles sont mises à la trappe directement. Donc j'insiste, donnez-vous du mal si vous voulez le job, parce que ça vaut vraiment le coup.
Très bien, merci.